Vous êtes prêts? J'appuie sur le bouton.
Ok, super.
Actu-lutte.
Actu-lutte.
L'actualité des luttes.
Actu-lutte.
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 L'actualité des buts.
Ok, donc aujourd'hui on enregistre chez Florent.
Ah,
ok,
oui,
voilà. Ok, ok. On est un peu limite niveau temps, puis on tenait à faire un sommaire.
Un chapeau.
Un chapeau.
Voilà. On est le 25, on est le poil à gratter pour l'émission Actu-lutte.
Florent.
Ben.
Clem.
Johan.
Sommaire.
Donc le sommaire, ça va commencer par moi qui ai fait une mini chronique sur moi-même, avec moi-même, pour moi-même, mais aussi pour vous, et qui traite de la lutte intérieure.
Donc un son après de Florence.
Exactement, c'est un témoignage d'une femme qui a vécu un mariage arrangé et elle raconte ce mariage et puis sa vie de couple qui dure depuis 30 ans.
Ensuite, nous avons un extrait de la conférence de Bernard Friot qu'on était plusieurs à aller écouter en novembre à Besançon. Donc Friot, le sociologue, qui est venu nous parler du salaire à vie.
Et enfin, on termine sur une interview de Samuel Chesneau sur l'efficacité militante.
Et bien bon, agrémenter tout ça de un peu de musique. Et voilà, nous avons une émission du poil à gratter.
C'est ça.
C'est ça.
Super. On efficace. Écoute.
Ok.
On écoute alors le son de Florence, peut-être que quelqu'un peut en parler.
Oh non, bah c'est non. D'abord toi.
Ah, c'est moi.
Oui. Okay. Parle de toi-même, Florent.
Actu-lutte.
Vous m'avez demandé de faire une chronique sur les luttes. C'est pas facile à faire. Pourtant, ma vie a été une succession de luttes. Donc des luttes intérieures et des luttes extérieures. Surtout des luttes intérieures. Celles que l'on dit contre soi-même. Pour ne pas laisser tomber. Ne pas tout plaquer, ne pas désespérer, ne pas se piller le nez. Pour ne pas aller se coucher avant d'avoir terminé sa chronique. Ou ne pas se décourager de ne pas trouver une super idée pour la commencer. Mais aussi lutter pour trouver cette putain d'idée. Pour se lever et aller travailler. Pour faire la vaisselle dès que j'ai fini de manger. Pour descendre les poubelles avant qu'elles débordent. Pour remplir les papiers, prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, pour organiser un dîner, faire des courses, les tâches ménagères, les cadeaux d'anniversaire, pour retourner chez le psy. Et là, je réalise combien c'est nécessaire. Heureusement, avec toi, je ne lutte pas, non. J'adhère.
T'adhères ?
Ouais.
T'adhères à quoi ?
Bah, j'adhère à toi.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait.
Je
je vous propose maintenant d'écouter un petit reportage sur une lutte intime. La lutte personnelle qu'une femme franco-turque a engagée avec son mari pour lui faire accepter ses envies de porter des pantalons, de fumer des cigarettes. Elle nous livre aussi son chemin de vie, comment est-ce qu'elle a vécu sa nuit de noces. Enfin, toutes des choses qui personnellement m'ont un peu marquée parce que très éloignée de mon propre quotidien et que j'avais fortement envie de partager avec vous.
Pour la nuit de noces, ouais. Comme c'était en Turquie, on était chez mon oncle, tout ça, c'était un peu, on était un peu gênés, quoi. Mais on nous a donné quand même l'appartement, ils sont partis ailleurs, tout ça. Et puis le fait de, bah, d'être avec une personne qu'on ne connaît pas, c'est très dur, parce que c'est l'inconnu, et puis je n'avais jamais été avec un garçon, enfin, je n'avais pas de relation du tout. Jusqu'à 18 ans ici, je n'avais pas connu un petit copain, j'ai toujours fait que des études, hein, je pensais qu'à ça, tout ça. Et puis le fait de se retrouver avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vient, enfin, qui n'a rien à voir... qui n'est pas de la même culture que nous, parce qu'il a quand même vécu en Turquie, il vient de là-bas, nous on est partis avec nos deux cultures françaises-turques, donc ça faisait que j'appréhendais énormément le fait de vivre cette nuit-là, et puis le fait d'être, entre guillemets, vierge, ça c'était énorme aussi, on ne savait pas comment ça se passait, enfin, j'avais aucune piste, je vais dire, à la télé, je n'ai jamais regardé quoi que ce soit qui pouvait me mettre sur une piste, comment... enfin, non. Est-ce qu'on a un mode d'emploi pour savoir comment on fait pour aller au lit avec un homme qu'on ne connaît pas, tout ça. Donc, c'était très dur pour moi de me mettre face à cette personne-là que je ne connaissais pas du tout, bien qu'il était un cousin, tout. Mais bon, il a pris les choses en main, j'ai bien vu, il essaie de me rassurer, t'inquiète pas, je vais être très doux, enfin, tout le baratin habituel d'un homme à une femme, quoi. C'est vrai que j'avais très peur. C'était une peur, j'avais mal au ventre, j'avais mal à l'estomac, j'avais vraiment... j'étais dans toutes mes émotions de pouvoir aller avec cet homme-là que je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je regardais un homme dans les yeux, c'est la première fois qu'un homme me touchait, tout ça. C'était, j'avais mal au ventre, j'avais mal à l'estomac, j'étais repartie là-dessus, je m'étais traumatisée toute seule, quoi. Mais j'y pensais, parce qu'avant le mariage, on y pense. Pendant le mariage, j'y pensais. Pendant un moment du mariage, on se dit, oui, c'est bientôt l'heure, le mariage va finir. On sait où on va atterrir. Donc, et puis, on savait qu'il y avait des gens qui attendaient pour savoir si on était... Parce que, enfin, dans nos coutumes à nous, il y a 80% de filles qui sont quand même où les gens attendent derrière la porte pour savoir si elle est vraiment vierge ou pas, hein. Puis mon mari, à un moment, il est sorti, il a dit, écoutez, je ne veux voir personne devant la porte, je sais ce qu'il en est, tout ça. Donc ça m'a un petit peu mis du baume au cœur en disant, voilà, bon, il me respecte là. Parce que c'est trop intime, ces choses-là, je veux dire, il faut que ça reste entre deux personnes, même si on ne se connaît pas, il faut que ça reste entre deux. Je suis restée un bon moment avec la robe de mariée, pendant presque 2 heures, sans l'enlever, tout. Il commençait à s'impatienter, bon, ce qui est normal, je veux dire, c'est un homme, on se marie, et puis après, bon, il faut passer par cette étape-là, quoi. C'est comme une étape même qui est dure, où tu n'es pas bien, parce que tu ne le connais pas, tout ça, mais il faut quand même le faire. Moi, pour moi, il était là, mais il remplissait l'espace de cette chambre. J'ai l'impression que j'étouffais, que je n'avais pas de place, même si j'étais... c'était spacieux, tout ça, c'était assez grande, la chambre, mais moi, j'étouffais dans cette chambre. Puis je suis encore toute traumatisée, rien que d'en parler là, je suis dans mes émotions, j'ai l'impression de revivre des choses que... Ça m'a marqué quand même ma vie, hein. Après le mariage, un jour, on est restés ensemble. J'étais avec lui, on se promenait, enfin, on faisait un petit peu... Ben, on faisait connaissance, parce qu'on ne se connaissait pas du tout, je veux dire... après, mais bon, quelques jours après, quand même, j'ai attendu, enfin, ça ne s'est pas tout de suite fait le lendemain, je veux dire. Il attendait quelque chose, enfin, une semaine, il a attendu un délai d'une semaine pour pouvoir me laisser me reprendre un petit peu en main, parce que ça m'avait quand même traumatisée. Après, il est revenu enfin, un an après, il est revenu en France, donc on a repris une vie ici. Pendant 2 ans, ça a recommencé, c'était... quand il est revenu, la première nuit, tout ça, c'était... J'avais l'impression que je revivais le jour de mes noces, quoi. Mais ça, je souhaite à personne de vivre ces instants dans le doute, dans la douleur, dans l'émotion, parce que il faut qu'une fille puisse se préparer à ce jour-là. C'est quelqu'un qui venait du village, c'est quelqu'un qui n'avait jamais été en dehors de son village. Donc il venait avec ses idées à lui, très arrêté. Une femme, elle a sa place à la maison. Étant le plus grand de sa famille, il n'y avait pas de fille, donc il aidait quand même sa mère, ce n'était pas un problème par rapport à ça. Il pouvait facilement me ramasser quelque chose sur la table, m'aider à faire le ménage, tout ça. Ça, il le faisait facilement, je n'avais pas besoin de le dire. Mais c'est par rapport à ce que, comment j'étais, il n'acceptait pas en tant que personne. Et après, il ne voulait pas que je mette de pantalon, il voulait que je sois toujours en robe ou bien en jupe. Parce que pour lui, une femme, c'est... Une femme ne met pas de pantalon, quoi. C'est l'homme qui porte la culotte, comme ils disent chez nous. Impensable d'obéir à ce qu'il disait, parce que lui, il voulait quand même imposer en tant qu'homme du foyer sa place. Et puis c'est lui qui devait ordonner pour lui, dans sa tête, dans sa famille. Enfin, il a été élevé dans une famille comme ça, où le père commandait, la mère obéissait. Donc quand il s'est retrouvé face à moi, ça le faisait un peu... Ouais. Je ne le connaissais pas du tout. Et puis il venait avec une seule culture, tandis que moi j'avais été élevée avec deux cultures ici, à la française et à la turque. Donc je me sens plus française que turque, parce que la culture turque, qu'est-ce qu'on a de la culture turque ? À part à faire à manger, je veux dire, faire un dizaine de la maison, de l'appartement où on est, je veux dire. Après, je suis plus à la française qu'à la turque. Hein, donc, lui, il ne se retrouvait pas en moi. Donc, il ne retrouvait rien de sa culture à lui. Bien que je faisais à manger, comme il aimait bien, tout ça. Mais le reste, il ne retrouvait rien en moi. Au fur et à mesure de lui expliquer que les choses ne se passent pas comme on n'ordonne pas déjà, on souhaite, on amène un souhait. Et après, il s'est en parlé à deux. Au début, c'était très, très dur. Il a quand même mis 2 ans avant de m'accepter. Puis moi, c'est pareil. Hein. Je veux dire, mais pendant les 2 ans, c'est toujours le maître devant le fait accompli. Regarde, si je mets un pantalon, ça, c'est pas pour autant que je me considère comme un homme. Ou bien, c'est pas pour autant que je vais t'ordonner. Si tu veux avoir ta place, il faut que ça soit 50-50. Quand on prend une décision, ça sera à deux. Mais c'est pas toi qui diras tout le temps j'ai raison. Ou bien, moi, je dirais... On a toujours tout mis sur la balance, mais c'était long. 2 ans, c'était long, mais il a quand même compris au bout de compte qu'il n'y avait rien qui faisait qu'il était déplaisant là-dessus. Après, j'avais des amis français qui venaient et qui me faisaient la bise, que c'était impensable chez eux. Une femme qui embrasse un autre homme que son mari, c'était pas possible. Donc, au fur et à mesure, c'est toujours lui expliquer qui a fait qu'il a beaucoup changé après. Il avait quand même cette gentillesse en lui qui était important. C'était pas quelqu'un qui voulait forcément imposer. Bon, il a essayé, je veux pas dire le contraire, mais il a essayé, mais comme il a vu que ça marchait pas, donc il s'est arrêté le pauvre. Mais c'est vrai que ça... Mais il écoutait énormément. Et moi, j'adore parler et puis lui expliquer les choses comme elles étaient. On lui a dit, hein, regarde, nous on a grandi ici, c'est pas pour autant qu'on fait des choses qui ne plaisent pas forcément aux parents. Puis qu'on a quand même grandi avec des parents qui étaient très faciles dans la facilité des choses. Ils nous permettaient d'aller dehors, je veux dire, d'aller à l'école, qu'il y avait des parents qui ne souhaitaient pas que les filles étudient, tandis que mes parents, il n'y avait pas de soucis. On venait quand même d'une famille, des gens avaient fait des grandes études, donc... Les coutumes, c'est ça. Il y a un moment, on s'arrête et puis on est obligé d'obéir à ces coutumes. Et ça, on essaie de discuter avec les parents, tout ça, que ça se fait pas comme ça. Ma mère, elle est choquée. Quand elle a vu mon mari réagir autrement de ce qu'elle pensait qu'il allait faire, elle disait, ah bon, tu l'écoutes, tu lui dis ça, ceci. Pourtant, parce que ma mère, elle a vécu ça. Elle écoutait mon père, c'est lui qui décidait tout... Donc, c'était pas pareil. Mais c'est vrai que mon mari, il a vraiment eu du mal au départ, mais après, ça s'est très, très... Et là, ça fait 31 ans qu'on est mariés, donc ça se passe toujours bien. Le pauvre, quand on lui demande quelque chose, il dit non, ne me demande pas, c'est elle la chef de la maison. C'est facile de jeter la faute sur les deux. Mais il est quand même resté dans le respect de l'écoute, de ce que je lui ai apporté. Je faisais rien sans son consentement non plus. Hein. Je lui disais tout le temps, on va faire ça, mais qu'est-ce que tu en penses? Je prenais ses idées. On a tout fait toujours à deux. mais il avait sa place d'homme à la maison parce que c'était l'homme. Je veux dire, moi j'avais ma place, mais je veux dire, il y a plein de choses que je faisais à sa place, que lui respectait de ce que je faisais.
Par exemple ?
Bah, c'est prendre des décisions par rapport aux enfants. Par exemple, il fallait, je sais pas, on devait faire un crédit pour un truc, je lui en parlais, il disait, ah bah, si tu penses qu'il faut le faire, il faut le faire. Il respectait beaucoup mes décisions à moi. Mais j'imposais pas, hein, c'est pas du tout ça. Je suis pas dictature. Non, non, mais je veux dire, il comprenait très facilement quand je lui expliquais.
Finalement, c'est toi qui portes la culotte.
Non, non, pas du tout. Je me sens pas comme ça. Non, non, on prend énormément la décision à deux. Où on a commencé un petit peu à avoir des petits soucis, entre guillemets, c'est quand les gosses, ils ont un peu grandi. Parce que lui, il pardonne facilement, il dit oui à tout. Et puis moi, je lui ai dit non, il faut mettre des limites, il faut qu'un gamin sache où il va. Le pourquoi d'eux, est-ce qu'il a droit, est-ce qu'il a pas droit. Je veux dire, on les a quand même grandi avec deux cultures. Nous, on en avait deux, ils en avaient deux aussi, mais nos gosses ne nous ressemblent pas. Tant mieux, parce qu'il faut qu'ils aient leur personnalité.
Et aujourd'hui, ils ont quel âge, tes enfants ?
21 ans, une fille, Shafak, et puis un garçon, Devrim, 19 ans.
21 ans, ta fille ?
Oui. Donc, ma fille, voilà. Donc, c'est un perpétuel recommencement de tout. Donc, comme elle a grandi, elle a 21 ans, donc il faut, pour eux, pour ma famille, il faut la marier assez rapidement. Donc, on avait déjà des demandes de mariage avant qu'on parte là-bas, quand on est arrivé là-bas. On s'est un peu pris la tête avec les parents en disant non, vous n'allez pas lui imposer ce que vous nous avez imposé à nous. Parce que mon mari, s'il avait pu choisir, peut-être qu'il aurait choisi quelqu'un d'autre que moi. Moi, si j'avais peut-être le choix, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre que lui. Je veux dire, c'est dommage parce qu'on se marie sans amour, on se marie, on ne se connaît même pas tout ça et puis on essaie de vivre avec un étranger. Mais quand on aime quelqu'un, tout ça, on partage d'autres choses. Ce n'est pas la même chose, on n'a pas la même émotion dans le mariage, tout ça. Donc, je ne voulais pas que ma fille elle ait les mêmes soucis que moi j'ai eus. Donc,
Ils l'ont entendu, tes parents ?
Ben, ça s'est très mal passé, ils n'ont pas entendu, mais bon, ils font la sourde oreille. Ils reviennent à la charge chaque année qu'on y va, mais ça ne fait rien. On tient bon, donc elle aura un mariage comme elle souhaiterait. Il faut que ça se passe comme ça.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison. Eh bien non, ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon est vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme, je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère, leur dit avec des hurlements, aucune pomme à l'inventeur. Qui l'a volé, c'est toi Adam. Et me s'avance à fanfaronne. Il dit mais non papa, c'est moi. Et d'ailleurs, elle était pas bonne. Faudra laisser mûrir, je crois. Alors c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit attends, je cueille des fleurs. C'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Eva leur a dit j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire éporter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Eve. Si Adam rentrait crevé, elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique, au premier fils, il est content. Et quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule, il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule, avec trois bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève, elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon. Il faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. on se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses. Bah, ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève. J'irai pas au paradis, non mais, qu'est-ce qu'ils s'imaginent. J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas.